Alors, déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un peu plus sur Hyper 2?
Alors moi, je suis Gaël, le batteur.
Moi, c'est Olivier, le guitariste.
Hyperdub, c'est un groupe qui est né en 2007.
Donc à l'époque, de l'époque, il n'y a plus que moi, Julien, chanteur, et Sylvain, bassiste. On avait avant un groupe de heavy metal qui a splitté, et on a voulu repartir sur un nouveau projet.
Tous les trois, vous étiez sur un autre groupe avant
ouais, c'est ça.
Du heavy metal classique.
Ouais, à la Maiden, quoi, vraiment, vraiment très classique. Le groupe a splitté, ça s'appelait Deadlock. Et on a voulu repartir sur un nouveau projet. On était tous fans de Strapping Ulla, David Fassen, des trucs comme ça.
Ça s'entend.
Et donc on a voulu voilà, faire un projet qui se rapproche un peu plus de ce style musical. On a fait une toute première démo en 2007, dès la première année, qui n'a pas été commercialisée. C'était plus un essai comme ça pour trouver un peu notre style. On a mis du temps pour trouver notre style.
C'est devenu Super Collector?
Sans doute, je sais même pas si j'en ai un exemplaire.
Non, j'en ai pas.
Tu peux se l'écouter d'ailleurs.
La démo, je l'ai même pas écouté.
Et on a sorti notre premier album Rational Pain en 2012 chez Clonosphère. En 2013, on a sorti un EP qui s'appelle Syncretism, toujours avec Clonosphère. Et là, on vient de sortir notre nouvel album qui s'appelle The Wickman chez Sendo Music.
D'accord. Un petit mot sur le nom, c'est venu comment et est-ce qu'il faut comprendre quelque chose ou...
Hyper Dead ?
Ouais.
En fait, ça part d'une blague. C'est-à-dire que comme on mélangeait plein de trucs, on disait ouais, c'est genre un dépotoir musical. Donc voilà, le mot Hyper Dead est resté. On aimait bien ça, sonner moderne, on l'a gardé, c'est pas plus compliqué que ça.
D'accord. Bah, tu en as déjà un peu parlé, mais comment vous. Voilà. Imagine quelqu'un n'a jamais entendu le groupe, se dit. Est-ce que je prends du temps pour aller voir ce qu'ils font sur YouTube, machin hein. Est-ce que tu peux voilà, essayer d'écrire la vie du groupe ou enfin, tu as déjà un peu parlé sur votre démarche, soit en disant bah, on est une catégorie, enfin si bon, mais comme souvent les artistes n'aiment pas trop les catégories, ils ont des raisons, peut-être plus par des groupes qui vous influencent. Alors, tu as cité Strapping.
Alors, oui, au niveau des influences, donc ouais, Strapping ou Lad, je sais pas, Tom Seater, Texture, Meshuga, Slipknot, c'est très varié. Hein, on écoute vraiment de tout style de métal, même pas que du métal d'ailleurs. Je sais pas si c'est facile de nous mettre une étiquette. On dit métal moderne, nous, parce que voilà, ça mélange plein de trucs, un peu prog. Voilà.
D'accord. Donc, c'est justement ces influences, bah, elles apparaissent ici et là, c'est assez intéressant, même si je pense que le gros point fort du disque, c'est toujours cette construction d'identité, et donc je pense que la progression est assez marquée avec les autres disques. Mais il y a ce côté extrêmement touffu, enfin c'est, alors il y a le côté touffu et le côté très sombre, alors le côté sombre, on va y revenir plus tard, mais le côté très, très touffu qui peut se comprendre par les références que tu viens de citer. Finalement, comment, quand vous attaquez un morceau, comment ça se construit? Il y en a un bout qui arrive avec un squelette et tout le monde se gratte dessus, et ça va être un peu un bordel ou...
C'est exactement ça. En fait, Julien amène une idée de base. Voilà, par exemple, tel morceau, c'est tel moment de l'histoire, donc il faudrait que ça sonne comme ci ou comme ça. Il donne la couleur de morceau, donc ça peut être une petite maquette avec une boîte à rythme, du chant ou un peu de clavier. Et nous, on va construire là-dessus, tous ensemble, on répète, donc c'est vraiment un travail de groupe. Où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, au niveau des guitares, de la batterie, etc. Quoi. Donc, dans certains groupes, t'as un mec qui arrive avec un morceau écrit, nous c'est pas vraiment ça. Quoi. C'est bien un principe des bases, et après tous ensemble on la développe.
D'accord, mais donc d'après ce que tu viens de sous-entendre, sur cet album-là en tout cas, c'est le concept à précéder la musique.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais.
On a dit on avait l'histoire, ok, et puis on s'était dit bah, il faut maintenant la découper et puis positionner de la musique en face. Et donc là, c'est plutôt, bah ouais, il est arrivé en disant, bah tiens, sur tel épisode, j'en reviens, on parle dessus.
Tel morceau, ça représente la guerre, donc on va faire un morceau très violent, voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Après, bon voilà, ça peut aussi partir d'un rythme de batterie, et tiens, ça collerait bien sur tel morceau.
Mais là-dessus, on répète, vous jamais, ou chacun part avec exemple, sa petite MP3 ou son MIDI, et puis travaille de son côté, puis vous revenez, puis aussi...
Après, il n'y a pas de possible de travail, enfin, on travaille principalement, on répète, et après, chacun chez nous, on travaille beaucoup avec guitare pro, on s'envoie des partoches comme ça, on retravaille, on enregistre des démos, donc chez nous, à l'arrache, hein, c'est juste pour nous, et puis on réécoute, ce qui nous plaît on garde, ce qui nous plaît pas on retravaille, voilà.
Donc voilà, si on revient un peu en arrière, est-ce que tu peux nous faire qu'est-ce qui s'est passé neuf vu du groupe depuis 5 étudiants en 2013?
Alors c'est vrai que 2013-2017, on dit souvent c'est un peu long au niveau de la sortie. Déjà, on a eu un changement de line-up. Il y a Gaël ici présent qui nous a rejoint en 2015. Notre ancien batteur, ça s'est pas très bien terminé, on l'a remercié. Bref, peu importe. Donc il a fallu qu'il rapporte tous les morceaux, qu'on retravaille du set. On était en pleine composition du disque en plus. Et puis aussi après on en parle pas souvent, mais il y a quand même un aspect financier hein. Quand on veut enregistrer un disque, ça coûte de l'argent, donc il a fallu économiser un peu.
Et entre le line-up et la finance, ça explique pourquoi entre le premier et le deuxième vous êtes dû passer par un EP pour essayer de dire, rappeler au bon souvenir de votre public.
Le but de l'EP, c'est vrai que finalement avec le recul, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû attendre et sortir un album en 2014 par exemple, peut-être, je sais pas. On voulait qu'il y ait vraiment de l'actualité régulièrement. Comme on avait déjà des nouveaux titres, on a sorti quasiment un an après l'album, on a sorti un EP. Le but c'était vraiment d'avoir de l'actualité. Et pour le coup en 2014, on avait écrit The Weekman, qui devait sortir sur une compile, finalement la compile n'a pas vu le jour. Et c'est lors du tournage du clip, juste avant le tournage du clip de The Weekman, qu'on s'est séparé de notre batteur. On est resté quasiment un an et demi sans batteur. Donc c'était un petit peu compliqué, surtout qu'on avait des dates de prévu. C'était des hauts et des bas, mais bon, finalement ça va, on s'en est bien sorti.
D'accord. Donc comme je disais, il y a aussi une évolution côté label.
Ouais.
Vous êtes passé avec Clonosphère à scène de bout de musique.
C'est ça.
Ça c'est sans bien sûr des voix de secret qui ne regardent pas. Ça s'est fait comment?
Alors en fait non mais il n'y a plus pas de secret. C'est-à-dire que jusqu'ici on travaillait avec Clonosphère.
C'est-à-dire que vous fournissiez un produit fini avec Clonosphère qui distribuait?
Dans la distribution c'était 6 de 9 pistes.
Ouais mais d'accord, c'est le Clonosphère et que vous aidez sur tel aspect.
C'est la promo. C'est la promo et 6 de 9 pistes c'est la dispo.
D'accord, mais vous fournissiez le produit fini.
C'est ça, la production c'est toujours un offre de toute façon. À moins d'être Metallica, je pense que personne, tout le monde paye son enregistrement. Et du coup, en octobre 2016, on avait fini l'enregistrement, on avait fait un premier mix. On l'a envoyé à Guillaume de Clone, qui n'était pas très content du mix. C'est vrai que quand on a réécouté, il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est vrai. Hein. Donc on a refait le mix.
Mix maison ou...
Non, par notre ingé son Greg. C'était au niveau de la batterie, les édits de batterie n'étaient pas top. On a tout refait le mix, de A à Z.
Par toujours le même.
Toujours, ouais,
pareil. Il a retravaillé son travail.
C'est ça, ouais. Donc on a revu notre copie et ça y est, on avait vraiment un mix propre en décembre. Et puis finalement, quand Guillaume a réécouté, il a dit non, j'ai plus envie de travailler avec vous. On n'en sait pas plus.
Ça c'est fait.
Voilà, donc on s'est dégoûté, clairement, puisque...
Ça vous était un peu tombé dessus.
Bah oui, parce que...
Parce que le mec il dit, bon ok, ça, si sous-entend rebosser le truc pour me refourner, pour me le reposer, sous-entendu, si ça va, boum, on y va.
Ouais. Et du coup, on était dégoûté parce que on avait un album fini avec plein de DS, on avait travaillé comme des fous là-dessus, et puis on était parti pour sortir le disque en autoprod. Mais bon, autoprod aujourd'hui...
C'est galère,
quoi. Par contre, c'est étonnant à tes concerts. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas de distro, il n'y a rien. Donc, bref. Et en fait, on a rencontré Roger, par l'intermédiaire de Guillaume Bigot, qui a bien aimé ce qu'on faisait, qui s'est proposé de faire un attaché presse. Et donc, il avait commencé à faire une communication comme quoi il allait avoir un nouvel album. Et quand Sam The Wood a repris la nouvelle, ils nous ont contacté, interrogé, en disant écoutez, si c'est pas le label, nous on signe. Quoi. Voilà. Ça fait comme ça, on était contents, ils ont envoyé le contrat, on a signé.
D'accord, ok, donc heureusement, l'histoire, c'est bien terminé. En
fait. Ouais, c'est un mal pour un bien, finalement. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce en général tu peux nous dire de la session d'enregistrement de The Weekman, et surtout s'il y avait eu des différences avec soit Syncrétisme, soit le premier disque?
Déjà oui, c'est le premier enregistrement de Gaël.
Ça reste mon premier enregistrement. Donc j'ai enregistré ma batterie en mars 2016.
Ça fait un an quoi.
Plus d'un an.
Ouais, c'est vrai.
14 mois.
Donc je vais enregistrer au studio de répète où on joue, donc c'est à la concert de Maxence, au studio Beau Manoir.
Toujours avec Greg.
Ouais, voilà, avec Greg, donc studio Nowhere. J'ai prévu 5 jours pour l'enregistrement et j'ai mis 2 jours pour torcher les 12 titres.
D'accord, super.
Voilà.
Donc, après, donc les guitaristes,
excuse-moi. Les guitaristes, pareil, ils ont enregistré chez Greg, Studio Nowhere, le bassiste aussi. Et Julien, lui, par contre, il a été coaché et enregistré par Guillaume Mundo.
Et comment tu expliques le fait de passer de 5 à 2? Parce que finalement, tu te laisses un peu de marge en disant si on a besoin de refaire.
Enfin, non,
c'est nickel ou...
À la base, ouais, voilà, on a voulu voir large quand même, au cas où. Mais je suis arrivé et j'ai fait une musique. C'était à l'époque Stoner, Forme Normée maintenant. Et elle est passée d'un coup, on l'a réécouté et franchement ça allait super bien, ça matchait super bien le truc. Et puis pour certaines musiques justement, des fois je les ai limite fait en one shot et puis voilà, c'était super.
Et dans si un enregistrement, vous laissez un chouïa de liberté ou comme ça a été vu et en gros on touche à rien?
Non, c'est simple, moi je travaille au clic. Donc en gros, non, c'est mort, c'est vraiment...
Enfin, dire, bah tiens, là, si je la roule en plus, ou une... Non.
Ah, ça si, c'est plutôt sur ça, voilà. C'est ça qui vient avec le groupe, c'est qu'on peut toujours apporter notre sauce. Mmh. Même si le morceau a été fait comme ça, tout le monde rapporte quelque chose.
Et après, nous, au niveau des guitares, chaque fois, en studio, on prévoit un peu de temps pour faire des arrangements, des guitares additionnelles, essayer de trouver des effets, des sons différents. Il y a un travail de post-prod entre guillemets quoi.
Et donc si on met bout à bout toutes les sessions des uns et des autres, ça fait combien de temps?
Plusieurs mois hein, je pense, parce qu'il y a eu les guests qui ont enregistré séparément chez eux. Les guests, ils enregistrent.
Oui, ils vous fournissent leur piste.
Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois, c'est vrai que l'enregistrement lui-même était long, parce que il fallait coordonner avec tous les guests, etc. Après, il y a eu le mastering qui a été fait par Guillaume Bideau. L'enregistrement lui-même, ça s'est étalé sur plusieurs mois, quoi.
Ça a mis un peu de temps, quand même.
D'accord. Finalement, quel a été le premier titre composé pour cet album?
The Weak Man, c'est de là que tout est parti en fait. Le titre, lui, The Weak Man a été composé en 2014. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la base c'était pour sortir sur une copile.
Et puis, Julien,
très bien. Et puis finalement, il y avait une histoire qui avait été créée pour ce morceau. On a voulu la développer parce que c'était dommage de garder l'histoire que pour ce morceau. Donc, de la chanson The Weak Man, on est passé à l'album The Weak Man. Tout est parti de là. Non, on l'a réenregistré pour le coup, pour le nouvel album.
D'accord. Et donc, ça va être ma question suivante, mais qui s'impose, c'est ça a forcément orienté le reste du disque.
Oui, bien sûr.
Il fallait que ça structure le reste.
Ouais, tout est parti de là, donc on a développé toute l'histoire.
Et le titre d'origine, il faisait combien de temps, combien de durée?
C'est le même, sauf qu'on l'a réenregistré.
D'accord. Et donc, en retravaillant, vous arrivez à 50e minute à ça.
Oui, puisqu'on a
une belle créativité.
On a développé l'histoire, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, c'est d'autres épisodes de l'histoire. Quoi.
D'accord. C'est un sacré défi d'attaquer un album concept aussi tortueux, et après, donc, faut l'histoire, et puis après, il faut construire la musique dessus qui match.
Ouais.
Vous êtes pas un peu. Vous êtes lancé dans le bain la fleur au fusil ou...
Alors c'est un projet ambitieux, c'est vrai.
En plus, sans en parler, en plus après des guests et des machins qui ont s'ajouté. Ouais.
En fait, c'est Julien qui a créé tout un univers. Il avait déjà des idées avant de cet univers parce qu'il fait du dessin, il fait de la BD, des trucs comme ça. L'idée c'était de retranscrire ça en musique. Mmh. Donc il a créé tout un univers assez fantastique, influencé par Lovecraft, etc. Et on a développé toute une histoire. Et en fait, chacun des guests, c'est un peu ce que fait Ereon, c'est soit un personnage qui intervient dans l'histoire, soit une émotion, entre guillemets, du personnage principal. Donc chaque morceau représente un tableau, un chapitre hein, de l'histoire, et chaque chanteur un personnage.
Et donc finalement, là aussi, comment s'est fait le choix des guests? Comment quel personnage tu mets? C'est à l'envie, tiens, on imagine bien, première question, et après j'en ai une deuxième pour toujours.
En fait, c'est pas fait au hasard. On a écrit, Julien a écrit l'histoire en imaginant que les chanteurs chanteraient à cet endroit. Donc,
c'est-à-dire, mais il écrivait en disant tiens, ça vient s'il y avait X, Y et Z là, ou voilà. Il savait que X, Y et Z étaient d'accord et donc il a écrit.
C'était supposé que X, Y et Z allaient dire oui. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc quand c'était pas le cas, il fallait trouver quelqu'un avec une voix qui se rapproche. Quoi.
D'accord.
Après, au niveau des guests en eux-mêmes, Gumbido, Arnaud Strobel, Julien les connaissait déjà, donc ça s'est fait assez simplement. Les autres, on les a contactés.
Est-ce qu'il y a des choix plus particuliers? Marc Basile, DGM, ouais. C'est un peu en dehors de l'univers. Strobel, on peut comprendre, on enfin, va un peu ça c'est logique, Bido, pourquoi pas. Marc Basile, bon, déjà, bon, les métal pour gueux, voilà, mais des bon, DGM, commence à avoir une belle carrière côté Italie, mais c'est pas le truc évident, c'est pas, je sais pas, un guest d'abri ou je sais pas
qui c'est. Fred, il a bien aimé justement la voix du chanteur, justement. Mmh.
Donc, chercher un truc un peu enfin, quelqu'un avec une voix un peu à la Russell Allen, tu vois. On l'a pas contacté, je pense pas qu'il aura répondu. Mais DGM, ouais, moi je connaissais pas, hein, j'avoue, je connaissais pas, mais quand il m'a fait écouter, je fais oui, mais ça collerait
trop bien. Voilà, c'est ça, c'est le contraste, il va se faire merveilleux.
Et du coup, on l'a contacté, il a dit oui, Blaise Bailey, pareil, au message sur Facebook, il a répondu, il a dit oui, ça c'était assez hallucinant.
D'accord, j'ai fait une interview récemment de l'équipe de Ariane Lucassel, là, derrière,
ouais.
Il me dit faut y aller franco. Hein,
ah, c'est ça.
C'est une, lui, il a sur ça. Sur, alors, pas le tout premier parce qu'il a mais le deuxième donc celui qui est Electric Castle ou tout le monde il dit j'ai écrit affiche à machin je vais me faire jeter évidemment les mecs
ouais, il répond c'est
ouais c'est une histoire de choc
ouais il y a ça c'est ça. C'est pas gratuit
ça, je crains que voilà donc il y a un côté on l'a dit il y a un côté assez noir qui part de la pochette jusqu'à et la musique et vous n'êtes pas des gens drôles ou vous êtes sur l'exomile ou...
C'est vrai qu'on nous a fait souvent la remarque que ouais, c'était pas très joyeux tout ça, même sur les albums. C'est vrai que nous, on se pose pas trop de
questions. Non, nous, ça vient pas, notre
aspect. Si on regarde même les pochettes, la première, c'est un personnage où on voit des humours. Deuxième, c'est une étoile sur fond sombre. Dis, voilà, ça, ouais, quand c'est du black, ça va pas être drôle. Et là, The Wickman, la pochette est magnifique, mais elle est pas fun du tout.
Je sais pas, peut-être que c'est une manière d'extérioriser, j'en sais rien. Mais c'est vrai que nous, on répète. On rigole bien. voilà. C'est peut-être quoi, toute une manière d'extérioriser, je sais pas.
Ah, c'est ça, c'est comme ça.
Mais bon, après, là, pour le coup, c'est un peu différent parce que ça sert l'histoire, ça sert le propos. Le propos de l'histoire est sombre. On voulait une pochette qui fasse genre affiche de film, tu vois, un peu la Sin City ou comme ça. Et ouais, ça a un rapport à ça, quoi.
D'accord. Donc, justement. Bah donc vous avez toujours eu des visuels soignés, parfois très simples, juste avec une étoile, mais enfin, l'effet était sympa. Alors qui a signé la pochette et comment vous avez bossé avec?
Alors on travaille toujours avec un ami qui s'appelle Cupi, qui est graphiste pro, on travaille dans la publicité dans son métier. Donc généralement on lui dit voilà, on aimerait une pochette qui représente. Représente ci ou ça, et lui il nous fait des propositions, voilà, il est très doué, il a toujours fait nos pochettes.
Et quel niveau de détail vous lui donnez? C'est 2-3 idées, la musique et des boutons ou un truc? Il faut qu'un personnage qui fasse ça, qui se déplace comme ça, qui fait ça dans le dos.
Je dirais pas qu'on lui laisse carte blanche, mais c'est assez. Enfin, les lignes directrices sont assez basiques. Là pour le coup, on voulait que ça représente l'histoire de l'album, donc on veut le héros, ça représente la vengeance, donc il est armé, il se dirige vers la ville. Visuellement, on lui dit voilà, c'est genre années 30-40, on va avoir des éclats, des trucs comme ça. Voilà, c'est. On lui laisse,
et ça a été ce qu'il vous a proposé ou c'est un parmi X?
C'était sa première proposition, après on a retouché 2-3 trucs, mais on a gardé ça.
Toujours, de toute façon, on a voulu rester dans l'optique cinématographique.
Ouais, c'est ça.
Un peu style Sin City, c'est pour ça le couleur noir et blanc. Et,
D'accord. Toujours dans le domaine visuel, donc dans le passé vous avez signé des clips, alors on voit des clips tournés pendant le concert. Il y a eu aussi un clip tourné. Où on voit le groupe en mise en scène.
Ouais, ça c'est assez récent. C'est un live filmé en fait qui est sur la chaîne YouTube de Rock'n'Oise. On a fait ça il y a pas longtemps.
Vous avez des choses dans YouTube pour The Wickman? Parce que le problème c'est très ambitieux, mais pour avoir du visuel à côté, ouais. Ça va être ambitieux aussi.
On a tourné un clip. Enfin, les prises, elles ont été faites en 2014, donc ça fait un moment. Et il y a un gros travail de montage derrière. C'est un ami réalisateur qui fait ça. Il est pro, mais il fait ça sur son temps libre, donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a de la 3D, il y a plein de trucs, enfin, il y a un montage de fou derrière. Et si tout va bien, c'est pour le titre The Weeknd, ça sort en septembre.
D'accord. Et pour le titre éponyme,
quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Guillaume Bédo dans le clip.
D'accord, là où tout est parti. Et ce clip-là, c'est donc il y a du montage. C'était quoi? C'est l'histoire du disque, enfin, où on voit les gens, les membres du groupe jouer des trucs, ou il y a une histoire en parallèle et vous.
C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a, on nous voit nous jouer habillés. Années 30, 40, visuellement c'est un peu genre jazz band, tu vois. Mmh. Et puis il y a tout un montage 3D avec l'univers qui est décrit dans la bombe.
Ah, d'accord. Et a posteriori, vous en gardez quoi comme souvenir? Parce qu'il y a deux aspects. Bon, c'est qu'il y a le côté marrant quand on voit le produit final. Sauf que quand on a fait 47 fois le même machin et la chanson à blanc, ça fatigue ou non?
C'était un peu fatigant, ouais, c'est vrai. On a vu, pour l'instant, on a vu que des extraits. Moi j'ai hâte de voir le résultat final. Non, moi je suis confiant, ça, je pense que ça va être à la hauteur.
Alors, sauf si je me suis complètement planté, vous êtes Picard.
Ouais, on est de l'Oise.
Voilà. Ok. Par contre, question générale, tu peux nous dire sur la scène métal Picard
de l'Oise. Alors là,
ça a l'air bougé, vous avez des relations avec des groupes dans le coin, non, c'est mort.
C'est compliqué pour trouver des plans de concert, on va dire.
On va dire mal situé quand même.
Parce que le question suivante, c'est que si on regarde, vous êtes entre Paris et la Belgique, si je suis loin, ou peut-être. Ça dépend quel point.
On est du sud de l'Oise, donc enfin de Chantilly par là.
Ah oui, donc carrément Paris.
Okay. Fred, lui, dans le 95, c'est quasiment l'île de France. Donc,
Et donc c'est un avantage, un inconvénient d'être presque francilien.
Disons que c'est pas forcément un avantage parce que c'est compliqué de jouer sur Paris puisqu'on n'est pas connu totalement sur Paris puisqu'on n'est pas ici. Et on n'est pas non plus connu de d'Amiens puisque c'est la ville principale de la région. Donc finalement c'est un peu galère.
Il y a un président de la République dans sa tête.
On espère, on verra bien.
Lui envoyer le disque.
Qui sait, peut-être qu'il va aimer.
Je sais pas ce qu'il écoute.
C'est de la bombe de Carla Pimpin.
Donc maintenant, qu'est-ce qui est la suite pour vous, là, à court moyen terme?
Alors, le but, là, c'est de faire des concerts. On a une date de prévue, là.
Qui est annoncée sur votre site?
Ouais, 2 juin ou 3 juin.
Non, le 2 juin pour le Black Pearl Metal Fest.
D'accord.
Metal Fest.
Le Black Pearl Fest, ouais. Okay. Et dans l'Ouest. Et le but, c'est de faire une tournée en septembre. Ouais. Faire une tournée plein démarchage.
Des pistes. Ah oui, il y a des trucs qui...
Ça vient seulement de... Voilà, on attend les réponses des assos et tout. C'est...
En première partie 2 ou vous
On contacte les assos et l'idée ce serait de jouer avec des groupes locaux dans chaque ville puisque bah, par expérience, quand on n'est pas connu quelque part, il vaut mieux jouer, en tête d'affiche. Quoi. voilà, et on voudrait sur scène donc retranscrire tout cet aspect visuel donc, avec des éléments de décor, les scènes de scène et tout. Quoi.
Vous avez gardé les tenues de la vidéo?
Ouais, on va essayer de jouer comme ça.
Justement, dans le passé, vous aviez joué avec des groupes assez confirmés, Texture, etc.
Ouais, on a fait le... C'était toujours MetaFest, ça. Si on peut faire les festoches, ce serait bien. C'est bien ce qu'il y a de mieux. Là, pour les festoches d'été, ça va être...
C'est un peu sérieux.
Ouais, on est déjà à la mi-mai, ça va être compliqué. L'année prochaine, pourquoi pas. Hein.
Ok, de toute façon, tout sera annoncé sur vos pages
Hyperdeur. Sur les pages Facebook et Hyperdeur.com.
C'est ça. On finit nos interviews par un petit quiz. Alors, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est vos goûts.
D'accord.
Ni bon ni mauvais, c'est les vôtres. Chanson préférée de tous les temps?
De tous les temps?
Oui.
Moi, ce serait l'attitude de Jason Becker, même si ce n'est pas une chanson, qui n'est pas de chant.
Un titre,
ouais. Trop beau.
Ouais, comme ça, là, qui vient à l'esprit. L'enfant sauvage.
Mmh. Bon. Premier album rock acheté.
Metallica, rock album.
C'était Rammstein de Rise Rise.
Le dernier?
Pour moi, ça remonte à Winter Sun, Time One.
D'accord, il y a le nouveau qui arrive.
Ouais, je l'attends impatiemment.
Moi, c'est Amon Amarth de Jones Viking.
Bon, vous êtes encore un peu jeune, mais on va quand même essayer. Titre que vous aimez le moins de la discographie?
Ah, c'est une bonne question.
Le truc, bon, si tu vous aimez, c'est pas grave.
Pas que de notre album?
Non, enfin, du...
Tout le...
Enfin, donc, enfin, après, les deux albums et le pain. Ça ne me dit rien, mais...
Je sais pas.
Il n'y a pas un titre qui, particulièrement, sauf si tu l'as trop joué, soit c'est plus notre époque, soit... Non.
C'est vrai que c'est un peu gonflant de répondre, de rejouer tous les mêmes morceaux, mais dans l'ensemble, il n'y en a aucun que je déteste.
Parfait. C'est un peu tendu, puisque vous venez en partie de faire, mais imaginez pour le prochain album, vous allez trouver un guest. Mort ou vivant, ou comme n'importe qui, mais même les morts.
Allez, Jeff Savoy.
D'accord.
Quand était mort.
Et puis la dernière, là aussi vous avez la possibilité de jouer n'importe où dans le monde, n'importe quelle salle, n'importe quel pays.
Au Japon.
Vous allez où?
Moi j'aurais joué au Japon.
J'aurais bien joué au Nerdfest.
Super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci bien.